Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels.
Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec Khadija Sabri. Bonjour Khadija.
Bonjour Florian.
Je suis ravi de te recevoir parce qu'on se connaît déjà un petit peu.
Ouais, et merci de m'avoir invité. C'est génial.
C'est une super personne et je pense qu'il faut que les auditeurs le sachent. Donc, je te présente rapidement. Moi, je vais faire comme pour les autres épisodes. J'étais sur ChatGPT et tu vas me dire si c'est OK pour toi.
OK.
Donc, tu es experte comptable, dirigeant du cabinet Infinities Conseil Expertise situé à Saint-Amand-les-Eaux dans le 59.
Oui, jusque-là, tout va bien.
Au niveau de l'éducation, tu es titulaire d'un master CCA à l'IAE de Dijon et tu as eu un DU de gestion de patrimoine de l'OREP. L'OREP qui est chez moi, Clermont-Ferrand, qui est l'un des meilleurs de France.
Exactement.
Carrière, Khadija a mené une transition numérique significative au sein de son cabinet depuis son acquisition en 2020, soulignant l'importance de la sensibilisation aux enjeux de la facture électronique et de l'accompagnement des collaborateurs et clients dans cette transition.
Eh bien écoute, c'est parfait.
Rien à rajouter ?
Rajouter juste simplement que j'ai deux bureaux, donc un à Saint-Amand que j'ai racheté et celui de Lille que j'ai créé en 2022.
Bah top. Bon, sinon, ChatGPT, il était plutôt correct.
Et il est correct, non c'est... Franchement, il est correct. Parfait.
Donc là, on est parti pour parler de ton passé, comment tu as fait pour arriver jusqu'à être expert comptable et diriger ton cabinet, une partie présente, comment tu gères ça, et futur, quels sont tes projets.
Yes.
Donc, la petite fille qui a déjà 7-8 ans, elle se dit, tiens, je vais devenir expert comptable ou pas du tout?
Alors, pour te dire, en fait, c'était à l'âge exact de 15 ans, où je me suis dit, je veux être expert comptable. Alors, 15 ans, pourquoi ? Alors, pour te dire, je suis originaire du Maroc, donc je suis née au Maroc, j'ai fait ma scolarité là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans.
D'accord.
Et au moment, en fait, de passage entre collège et lycée, on doit choisir notre orientation.
D'accord.
Et donc, le choix, en fait, c'est au phare à ce moment-là. Et ce que je voulais devenir, c'est que je voulais vraiment faire des grandes études. Alors, donc quoi ? C'était cette question-là. Et en fait, c'est comme j'étais vraiment major de promo, que ce soit en matière scientifique et littéraire, je me suis dit, je veux des études qui comblent le tout. Je ne veux pas du scientifique, je ne veux pas du littéraire, je veux l'entre-deux. Je veux tout, en fait. Et donc, je commençais à chercher les parcours. Et à ce moment-là, en fait, c'était expert comptable. Pourquoi expert comptable ? Parce que dans les formations au lycée et en école supérieure, on avait en fait des matières qui sont et scientifiques, et littéraires, et économiques. Et j'ai adoré ça parce que je trouvais en fait dans ce parcours quelque chose en fait du pratico-pratique. C'est pas que de la théorie, c'est que on va par exemple étudier les maths, mais pour quelque chose. On va faire des dissertations, mais pour des rapports. On va faire de l'économie, de façon générale, mais pour servir quelque chose ou l'appliquer dans le choix quotidien. Et aussi, j'ai mon papa, qui est paix à son âme, qui est entrepreneur. Et donc, j'ai vu aussi, en fait, cette particularité de venir tous les soirs faire les dépenses recettes, etc., en tant que petite fille. Donc pour moi, à 15 ans d'être expert comptable, pour moi, c'était clairement une évidence. Donc j'ai choisi ça. Et puis lycée génie économique, spécialité comptabilité. Et après, par la suite, DUT finance et comptabilité dans l'école supérieure à Casablanca. Et j'ai décidé de quitter le Maroc pour venir en France. Alors, tu vas me dire pourquoi ?
Exactement, je vais te poser pourquoi.
je le voyais dans tes yeux. On ne nous voit pas, mais je le voyais dans tes yeux. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et donc, en fait, si tu veux, au Maroc, c'est du droit français adapté au Maroc. Et moi, en fait, à ce moment-là, il y a des études aussi d'expertise comptable au Maroc. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment... avoir en fait l'original plutôt que la copie. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire mes études en France et de partir, j'allais dire, du Maroc en France. C'était un petit peu difficile, mais on va y venir parce que j'ai vu, tu m'as dit défi. Donc, c'était ça, c'était ce but-là. Et donc, du coup, comme ChatGPT l'a bien dit, DUT, j'ai fait un DUT à l'IAE de Dijon. DUT, oui, dans l'IAE de Dijon, en une année spéciale, parce que comme j'avais déjà un DUT au Maroc, et après j'ai intégré l'IAE Master CCA à Dijon, et j'ai continué après derrière, quoi.
Bah déjà, major de promo, la tête bien pleine, bien remplie, et puis ce goût de l'aventure peut-être d'aller jouer encore plus loin.
Ouais, et bah, c'est exactement ça en fait, major de promo, parce que je suis devenue, dans mes baccalauréats et le DUT, j'étais première sur Casablanca. oui, j'étais première sur Casablanca dans ma discipline. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais dans la foulée en fait invitée par le Palais Royal à intégrer, à être invitée à Rabat pendant 8 jours avec plus de 300 jeunes de tout le Maroc, à être vraiment des rôles modèles de la jeunesse là-bas marocaine. On a rencontré le roi, on a rencontré le premier ministre de l'époque, les ministres aussi. Et c'était en fait une super expérience qui a fait en fait aussi assurer cette vision que j'ai de me dire il faut y aller, il faut poursuivre en fait ce chemin de réussite et aller jusqu'au bout. Et c'était à ce moment-là où je me suis dit non, il faut que j'aille jusqu'à la France pour avoir mon diplôme d'expertise comptable.
Ça t'a confirmé en fait, ça t'a rassuré en disant ah tiens, je suis invité chez le roi.
Ouais.
On doit se sentir tout petit, je pense.
Ouais.
Et puis là, tu te dis, en fait, si je peux aller là, bah, mes ailes sont peut-être assez grandes pour aller...
Exact.
Faut y aller.
Mais tout à fait. En fait, c'était au baccalauréat. Et après, 2 ans après, l'expérience, elle s'est renouvelée. Parce que comme je suis devenue aussi majeure de promo Bac+2, j'ai pas arrêté. Et donc, du coup, on a passé 3 jours à ce moment-là à Tanger. Mais c'est pareil, c'est inauguration, c'est être invité comme... des ministres, quoi. Et puis, essayer vraiment, c'était à ce moment-là où je me suis dit, non, il ne faut pas que je reste là, il faut que j'aille vraiment chercher l'excellence, en fait.
Donc, tu arrives à Dijon, on a le master CCA, et là, on commence à aller dans les études d'expertise comptable, le stage, tout ça. Comment ça se passe?
Alors, pendant les études, j'étais, dans un premier temps, j'ai fait mes stages et mes jobs d'été dans un cabinet comptable, donc dans un petit cabinet à Chenôve, à côté de Dijon, et j'ai adoré. J'ai fait et de l'expertise et du commissariat aux comptes. Ouais, cool. Et en fait, j'avais déjà un bagage. En fait, j'avais pas fait de l'alternance, mais j'avais déjà en fait pratiquement... 1 an, voire même 2 ans d'expérience. Comme j'ai mes jobs d'été, je les faisais dans un cabinet. Donc, c'était super chouette. Et en fait, à la sortie de mon diplôme, j'étais déjà recrutée. Donc, le 23 juin, pour être exact, j'étais appelée par le président de l'ordre à l'époque du Nord-Pas-de-Calais, Régis Gossard. Donc, pour quelqu'un qui veut être expert comptable, et que quelqu'un, en fait, le président de l'ordre t'appelle, tu dis oui, tout de suite. Donc, de Dijon, je suis arrivée dans le Nord, à Saint-Amand-les-Eaux. Et donc, j'ai entamé mon stage d'expertise comptable dans la foulée. Et pareil, le DSCG avec les 2 épreuves qui manquaient, dans la foulée aussi, en octobre, je les ai eues. Et stage, c'est parti, quoi.
Ça s'est bien passé ce stage, ce fameux mémoire, tout ça?
Alors, moi j'ai pris mon temps. Pour te dire, je suis arrivée au cabinet en 2007 et j'ai eu mon diplôme en 2012. Donc j'ai pris vraiment mon temps. Les épreuves, je les ai passées en novembre 2010, je les ai eues du premier coup. Mais mon mémoire, j'ai décidé, en fait je les ai séparé les deux. Je voulais faire vraiment chaque chose en son temps. Et pareil, en fait, moi, j'ai toujours, en fait, cette excellence. Alors, pour concilier les deux, parce que quand on est en stage d'expertise comptable, tu travailles pas 35 heures.
Oui, oui, on travaille, et faire ça à côté, hein, c'est pas
et fort. Et le week-end, tu les passes à réviser et tu les passes au diplôme. Mais j'aimais beaucoup, parce que c'est... voilà. Et le stage, donc, moi, c'est en tant que collaboratrice, pour moi... c'était vraiment, comme j'avais déjà la vision aussi d'être dans ce cabinet, de voir tout, c'est-à-dire que ce soit la comptabilité, l'expertise comptable, le social, le juridique, c'était ma volonté, en fait. Ouais, j'étais pas dans un grand cabinet, mais je voulais un petit cabinet à taille humaine pour que je puisse voir vraiment le tout. Et donc, du coup, je m'impliquais énormément, donc je comptais pas mes heures. Et aussi, du coup, par rapport aux révisions, donc j'avais décidé, en fait, de prendre mon temps, faire les épreuves d'abord. Donc, novembre 2010, j'ai eu les deux épreuves d'un seul coup. C'est super. Et puis, 2 ans pour préparer mon mémoire. Donc, 1 an pour la notice, parce que je voulais vraiment le faire vraiment bien comme il faut. Et 6 mois pour, du coup, la rédaction et passage de diplôme. Il faut s'accrocher, mais franchement, ouais, il faut aimer son métier. C'est ça, la petite étincelle. À un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? j'ai pas de vie, etc. Mais tu te dis, non, c'est pour quelque chose. C'est pour un but, c'est pour un rêve. Donc, vas-y. Et puis, c'est exactement ce que j'ai fait.
C'est ce que je me dis aussi. Alors, tu vas me confirmer ou pas. Moi, oui, il y a eu des moments durs et tu te dis, c'est un investissement pour plus tard, pour arriver à notre but. Parce que là, waouh, c'est quand même un super métier.
Exactement. Mais en fait, c'est ça. En fait, moi, je me rappelais toujours en fait de mon âge de 15 ans, de la petite fille de 15 ans qui voulait être expert comptable, à des moments où je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour rêver de ça? Et à des moments où je dis, non, il ne faut pas que je lâche, il faut que j'y aille. Et pareil, en fait, j'avais aussi cette... alors, je ne parle pas de pression, c'était cette responsabilité-là d'avoir quitté aussi un pays, ma famille, pour poursuivre ce rêve-là. Et je me dis, non, je n'ai pas fait tout ça pour baisser les bras ou pour faire quelque chose. Donc, en fait, je trouvais des moments où je m'épanouissais, que ce soit dans mon travail, avec mes amis, ou des moments où je me dis, off, là, par exemple, pendant 2 week-ends, je ne fais rien du tout.
Oui, se souffler.
Voilà, exactement. Je souffle, je sors, je voyage, etc. Et puis c'est reparti, quoi. En fait, il faut un moment où on se dit, il faut prendre de l'énergie pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est un investissement en temps, c'est un investissement, j'allais dire, en vie sociale aussi. Mais je me dis, mais une fois que je l'ai, qu'est-ce que je vais devenir? En fait, c'est ça, c'est de se projeter au moment où tu as les résultats.
Et là, c'est dur des fois.
Comment tu te sentirais si tu as le résultat et si tu es diplômé? Et c'est en fait comme moi, en fait, quand je visualisais ça et j'étais remplie de joie et de fierté, je me suis dit, c'est bon, c'est tout. J'ai tout, allez, je fonce.
C'est un marathon. Et j'ai une question. Une fois que tu as eu ton diplôme, tu t'es pas dit, ça y est, j'ai réussi, maintenant, c'est le moment que je rentre à Casablanca, que je profite de là-bas, ou non, tiens, je reste vers Lille, et c'est là que je me suis senti réussir, et c'est là que je dois construire.
Alors, c'est une très, très, très bonne question, parce que c'est effectivement ce qui m'est arrivé. Alors, alors, la petite anecdote, c'est que j'ai rencontré mon futur mari. mon futur mari à la sortie de ma soutenance de mémoire.
C'est vrai?
C'est vrai, mais véridique.
C'est un expert comptable?
Non, c'est pas un expert comptable du tout. Et il est lillois. Et c'est rencontré professionnellement parlant parce qu'il est entrepreneur. Et juste après ma soutenance, donc avant même d'avoir le diplôme, et c'était mes réflexions en me disant, je rentre au Maroc où je construis ma vie ici. Et je suis très famille, moi. Donc,
ça devait être dur.
Exactement. Mais en fait, si tu veux, quand le choix est arrivé, après moi, je suis très confiante aussi et j'écoute beaucoup les signes. Tu vois, de la légende personnelle.
Ah bah attendez, référence. T'as un signe là.
Exactement. Et donc, je me dis, OK, donc là, il y a un autre paramètre que je n'avais pas prévu. Et en fait, c'est la décision était de se dire, je reste ici et je construis ma vie familiale et professionnelle ici. Tout en gardant, en fait, dans le coin de ma tête, le Maroc, parce que c'est mon pays de naissance et la France, c'est mon pays d'adoption. Et en fait, je suis restée. Et en fait, aussi professionnellement parlant, parce que comme j'étais dans le cabinet, je t'avais dit, en tant que collaboratrice, je m'impliquais énormément au cabinet. Et c'était dès le départ, à l'entretien d'embauche, la question de reprise était sur la table.
Ouais, sur l'association.
Voilà. En fait, c'était même pas l'association, c'était la reprise.
Ah d'accord, donc carrément. Il avait déjà prévu de partir,
oui.
Et il a
voilà,
les misé
exactement.
Sur toi.
On s'est dit, hop, 15 ans, c'est l'âge, c'est et pourquoi pas, et la relève, et pourquoi pas. Et donc, mais moi, pareil, c'est au moment du diplôme, j'avais déjà en fait un autre rêve, c'est de reprendre. Donc, et c'est là où il y a la balance en fait familiale. Du coup, j'ai construit ma famille à moi en France. Et la balance professionnelle, je me dis, je construis mon cabinet en France. Donc voilà.
Une autre question. Est-ce que c'est possible d'avoir un cabinet ici et un second, par exemple, au Maroc? Et de temps en temps, tu fais 6 mois, je ne sais pas.
Bah, tu grilles les étapes parce que c'est dans ma vision.
D'accord.
Ouais. Non, ce n'est pas difficile. Et c'est pareil quand je te dis, j'ai un coin dans ma tête, le Maroc, ça, il a toujours existé. Et en fait, à court terme, je crée, bah là, je crois que c'est cette année, je vais créer mon cabinet au Maroc, à Casablanca.
Bravo.
Alors, pour l'anecdote, là, j'ai 42 ans, j'ai fait 21 ans au Maroc. Donc jusqu'à jusqu'à ce que je vienne ici en France, et j'ai 21 ans en France. Et donc l'idée de faire le pont entre les deux m'incite énormément à le créer. Et j'ai aussi beaucoup de demandes à ce niveau-là.
Après, peut-être qu'il va falloir que tu t'associes pour avoir des gens sur, à Lille, une partie aussi au Maroc.
Tout à fait. Il y a l'association qui est possible et il y a aussi le recrutement des directeurs de bureaux.
D'accord.
Voilà, des deux côtés, comme ça, la suite, elle est faite. Et puis, je peux me consacrer aussi à d'autres projets aussi en tête. Quoi.
Ça, c'est top. On va revenir un peu sur le passé. Ça y est, j'ai le diplôme. Je suis expert comptable, donc notre profil technique, on répond à tout ce qu'on nous demande. Et là, tu vas, comme tu me l'as dit, devoir prendre la casquette de dirigeante.
Yes.
Comment ça se passe tout ça? Parce que ça, on n'apprend pas forcément à l'école. Hein.
Non. Alors, on n'apprend pas forcément à l'école. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai... en 2000, donc 2013, 2012, je suis diplômée. J'ai enchaîné avec un autre diplôme, le REP, comme ChatGPT l'a dit.
T'en avais pas marre, t'as dit, allez,
dans la foulée, parce qu'en fait, dans l'apprentissage de l'expertise comptable, on apprend énormément sur l'entreprise, mais pas beaucoup sur le chef d'entreprise. Et donc, la part, en fait, cachée, c'est le patrimonial du chef d'entreprise, et la gestion de patrimoine, pour moi, elle était pertinente là-dessus. Et en fait, je l'ai fait dans la foulée. Alors, avant même d'avoir les résultats janvier 2013, j'étais déjà inscrite l'OREP, mais donc Clermont-Ferrand, dans la délégation à la section à Lille. Et j'avais entamé ça. Et donc, fin 2013, je suis diplômée de gestion de patrimoine. Et en 2015, donc, je prends la direction du cabinet à Saint-Amand. Régis Gossard est toujours là, mais je prends la direction de ça dans la vision. Dans 5 ans, je rachète. Et donc, j'ai racheté en 2020, pour être exact. Mais comme tu viens de le dire, dans notre fonctionnement, dans notre formation expertise comptable, on ne nous apprend pas le management, on ne nous apprend pas à avoir la posture dirigeante, et encore moins la communication, parce que voilà. Et c'était en fait mes deux, quand j'ai fait l'audit, j'allais dire, de ce que je vais faire, et puis la vision, etc., l'audit carrément du cabinet, j'ai détecté deux faiblesses. Hein, alors, on va dire la mienne, oui ou non, parce que j'étais déjà en fait, en gros, la responsable du cabinet, j'étais collaboratrice, et c'est la posture en fait, comment manager, comment fédérer, comment avoir cette posture de dirigeante. Et la faiblesse, la faiblesse aussi, c'est la stratégie. Donc, pour revenir à la casquette de dirigeante, donc en 2019, j'ai entamé un coaching personnel avec un coach pro pour avoir en fait pour me connaître moi-même. C'est la connaissance de soi d'abord, comment je fonctionne, comment je communique, comment je réagis, c'est quoi mes drivers, c'est quoi mon style disque communication. Et pour ça, en fait, j'ai construit ma posture de dirigeante, le comment je souhaite manager mon équipe, comment je souhaite être la dirigeante que je suis maintenant. Et donc, pour moi, en fait, management participatif, parce que mes équipes, c'est ma famille aussi, c'est mes petites familles. Quand j'ai racheté, on était 5. Là, maintenant, on est 16 sur les deux bureaux. Et donc, je les manage comme je manage ma famille, comme je manage mes clients, j'allais dire. Et puis, dans cette participation, on est embarqué. Et puis, ils connaissent la vision, ils connaissent la valeur que je veux intégrer dans mon cabinet. Et aussi, je leur fais aussi des ateliers développement personnel aussi pour eux, pour qu'ils puissent être dans cette optique de performance autre que la comptabilité, mais aussi communication.
T'investis en fait sur tes... Comme tu dis, t'as même pas des collaborateurs, t'as des familles.
Ouais.
T'investis déjà à essayer d'apprendre sur toi, sur eux.
Exactement.
C'est impressionnant.
Ah oui, c'est magnifique. Et puis, c'était au janvier 2022, quand j'ai créé le cabinet à Lille, donc que ça devenait en fait 12 collaborateurs à cette époque-là. J'avais en fait à cœur en fait de leur transmettre ce que j'ai reçu en fait en coaching, et on avait animé avec mon coach une journée disque de communication, de savoir en fait chaque personne comment il est, sa couleur, tu sais, le rouge, le vert, le bleu, le jaune et le bleu. Sans discrétion, j'allais dire, ils sont pratiquement bleus et verts. Heureusement d'ailleurs, parce que pour un métier de comptable, et donc organisé et tout. Mais en fait, ça nous a permis en fait d'être rassemblés et de savoir en fait communiquer entre nous et communiquer aussi aux clients. Parce que là, en fait, on détecte en fait les profils aussi, et ça devient en fait du gagnant-gagnant, parce que c'est juste magnifique.
Bah oui, c'est un métier où on ne met pas assez en avant ce côté humain. Dire que bah, des fois, il n'y a pas que les chiffres. Là, de bien connaître son client, de bien se connaître entre eux pour que ça fonctionne, surtout en période fiscale.
Tout à fait.
Ça, c'est important.
C'est exactement ça. On est un métier, il faut le dire. On est dans la pression des délais. Il y a des deadlines, il y a des échéances, il y a la période fiscale. Il y a pas mal de choses. Et donc, gérer aussi, savoir communiquer, c'est gérer aussi son stress, ses émotions. Et quand on connaît, par exemple, le collaborateur qui est en face, comment il fonctionne, on peut communiquer avec lui, même en période de stress, et en période de peur, d'angoisse, et en période de tout cool, quoi. Donc, et pareil pour les clients, c'est pareil quand on est en mode stressé, la façon aussi de parler aux clients, ça peut être vraiment, soit génératrice de conflits, soit génératrice de cet élément en fait qu'on a tous expert comptable, c'est le confident du chef d'entreprise. Lui, il est pressé par son bilan, nous, on est pressé pour faire les deadlines, et donc on se retrouve dans un lieu commun où se dire, nous, en tout cas dans le cabinet, c'est trouver la meilleure façon, la meilleure stratégie gagnante-gagnante pour avancer au plus avec les clients et dans le développement et dans la sérénité, et tout va bien.
Comment tu gères cette casquette, du coup, stratégique, tout ça, chef d'entreprise, gérer les problèmes, mais il faut quand même que j'ai mon côté expert comptable où je dois quand même signer des dossiers.
Oui.
Comment tu fais pour jongler les casquettes ?
Les casquettes des deux. Alors, il y a aussi ça, on a fait une formation de gestion du temps aussi, et des priorités. Non, mais c'est essentiel.
C'est essentiel, ça.
Essentiel. On ne le fait pas souvent dans les cabinets, mais là, franchement, pour moi, c'était essentiel, la gestion du temps priorité. Alors, pour le côté managérial, j'ai un point régulier avec chaque collaborateur, chaque chef de mission, en tout cas, qui, eux, ils ont un point régulier avec les assistants. On a une réunion globale équipe tous les lundis matin, un lundi sur deux, quoi, et une réunion stratégique avec les chefs de pôle.
Tu les impliques ?
Oui. En fait, à chaque fois, moi, c'est comme ça. Je dresse en fait ma stratégie ou ma vision pour le cabinet à long terme, et j'ai comme une sorte de comité stratégique en interne, les chefs de pôle, où on regarde, par exemple, les outils, l'expérience client aussi, elle est clé chez nous, la communication, le côté juridique, le côté fiscal. Et à chaque fois, on a un point ou deux points à faire. Alors, c'est des réunions, mais ce n'est pas des réunions à ne pas en finir. On est limité dans le temps. On a 45 minutes pour tout le faire, et puis 15 minutes de questions-réponses, etc. Et chacun, il a une tâche bien spécifique, celle qui rapporte, celle qui, par exemple, on a créé les trucs et astuces dans tous les outils, etc. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et en fait, cette gestion me convient super bien parce que il y a un point régulier, il y a le point, j'allais dire, supervision. Des problématiques sur les dossiers ou pas, de gérer les solutions. Pour moi, il faut compter un bon 50% de son temps, j'allais dire, de management. Et pour moi, c'est essentiel parce que pour faire avancer les choses, c'est obligé. C'est obligé d'avoir en fait ce temps de disponibilité aussi. Et l'autre temps, c'est expert comptable et dirigeante. Je suis aussi impliquée dans des réseaux de business, donc je fais aussi des ateliers, des conférences dans des incubateurs. Et ça me permet en fait de... Tout ça, en fait, pour moi, c'est complémentaire parce que ce que je vais nourrir, en fait, me nourrir dans l'écosystème de dirigeants me permet de conseiller aussi mes clients dans leur stratégie et conseiller aussi mes collaborateurs et la boucle est bouclée, quoi.
C'est pas trop lourd sur les épaules de faire tout ça ?
Alors, c'est lourd.
Tu n'as pas d'associé ?
Non, je n'ai pas d'associé.
Voilà. Donc, tu es toute seule.
Je suis toute seule. Alors, après, moi, c'est ma réflexion. Moi, j'aime bien être... je suis royaliste dans ma façon de faire les choses. J'aime faire la vision, j'aime faire la stratégie et j'aime avoir des personnes qui exécutent, en fait, en gros. Les impliquer, oui, les embarquer. Avoir un associé, il faut vraiment que ça soit dans un bon mindset commun. Je n'ai pas encore trouvé.
Pas fermée.
Mais non, je ne suis pas fermée. Surtout si je veux créer au Maroc, je ne suis pas fermée du tout. Mais il faut que ça soit dans ces valeurs et ce mindset-là. Parce que pour avancer, c'est comme un mariage.
C'est ce que j'allais te dire.
C'est exactement comme un mariage. Moi, avec mon mari, on est complètement différents, mais on est complètement complémentaires. Et donc, du coup, pourquoi pas être complètement différent d'un associé, mais complètement complémentaire, ça, c'est OK aussi. C'est lourd à gérer. Après, c'est pareil que quand j'étais collaboratrice et je voulais être expert comptable. Je m'accorde et j'ai une exigence envers moi pour m'accorder des moments de off. C'est-à-dire que, par exemple, je peux programmer une semaine de retraite. D'ailleurs, la prochaine, ça va être du 23 au 27 mai. De me dire de me couper de tout et puis de partir ailleurs et de juste pour être en énergie. Alors, généralement, quand je fais ça, mes collaborateurs ont un petit peu peur parce que, en fait, quand je reviens, j'ai plein d'idées et j'ai plein de choses à... En fait, c'est du renouveau, c'est de l'énergie. Et puis, j'ai une idée dans l'expérience client, j'ai une idée dans un outil, j'ai une idée, il faut qu'on fasse ça. Donc, voilà. Après, ça, c'est ma petite anecdote du moment off. Mais il faut se régénérer, oui.
C'est important.
Ouais.
Bon.
Ça assure l'équilibre.
C'est un beau parcours. Est-ce que tu as eu des événements ou des mentors, des personnes qui t'ont inspiré pour aller jusque-là ?
Alors, mon premier mentor, ça reste toujours mon papa. C'est quelqu'un de formidable. Il s'est créé de lui-même, en fait. C'est un autodidacte. Il a pas été à l'école, mais il a travaillé depuis qu'il est petit. Il était dans la mécanique et il a créé sa propre entreprise tout seul, avec une famille, donc orphelin aussi. Il a créé sa famille. Ouais, il est impressionnant, il est inspirant. Il était, paix à son âme. Et pour moi, il reste toujours mon premier mentor. Et je te dis, moi, je le vois encore... quand j'étais petite, en train de prendre en fait son petit cahier dépenses recettes, et je demandais en fait à chaque fois quand il faisait ça le pourquoi, le comment. Il me dit non, il faut que tu saches dans une. Bah, en fait, à l'époque, c'était pas dans une entreprise, mais dans une affaire. Il faut que tu saches qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et ce qui sort, il faut que tu saches pourquoi il sort. Et ce qui rentre, mais pourquoi et comment tu peux l'améliorer. Et en fait, ta balance, en quelque sorte, doit être dans le positif et que tu dois... Par exemple, c'était une entreprise de dépannage. Il me disait aussi, il faut que tu gères en fait l'épargne Alia, l'épargne d'investissement, l'épargne où c'est pour toi, c'est pour ton salaire, c'est pour ta famille, etc. Et ça reste toujours en fait un mentor depuis petite. Le deuxième, c'est Régis Gossard. Pareil, je l'ai vu récemment, il est passé me voir au cabinet et j'ai un plaisir en fait de le voir aussi à chaque fois. Et lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a géré 4 sites tout seul. Pareil, une force phénoménale dans sa façon de faire tout seul, à gérer tout ça, dans le management, dans le relationnel, proche de ses clients, proche de ses collaborateurs, et j'ai adoré travailler avec lui, vraiment.
C'est tout est possible, j'ai l'impression.
Ouais, ouais. Franchement, c'est et aussi ce qui m'a appris aussi, mais les deux, ils m'ont appris ce côté en fait responsabilité et engagement. Tu sais, par exemple, avec Régis Gossard, quand on s'est mis d'accord en 2015 pour que je le rachète dans 5 ans, on n'a rien signé. C'était juste engagement verbal et on s'est serré la main, quoi. Et en 2020, période Covid, il m'appelle, il me dit « T'es sûr, tu veux toujours reprendre ?» Je lui dis « Oui, il n'y a pas de problème, je reprends. » Et c'est en janvier qu'on a signé le compromis de vente pour le 1er juillet, parce qu'il fallait, parce que c'est la création de la société, inscription à l'ordre, pour pouvoir en fait racheter le fonds. Et voilà, c'est un engagement. Pour moi, c'est ça aussi, être expert comptable et dirigeant, c'est de se faire confiance et de faire confiance à ses partenaires aussi.
Ça fait rebondir. En période Covid, ça t'a pas fait peur?
Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, pareil, Régis Gossard m'avait fait confiance quand j'ai pris... les rênes en fait du cabinet, c'est de le moderniser. Et j'avais mis en place en fait depuis 2017 toute une série en fait de process, de conduite de changement pour dire qu'un cabinet classique papier devient dématérialisé aussi. Donc, et pour l'anecdote, en 2019, on est passé vraiment petit à petit en dématérialisation, et en fait, période Covid. Alors un mois avant, j'étais partie en voyage en Thaïlande et j'avais vu la répercussion du Covid, parce que c'était voilà. Et je suis revenue un mois avant, c'était le 15 février 2020 exactement, et j'avais préparé mon équipe en leur disant il faut que vous vous prépariez, que si demain il y a une annonce, que tout le monde soit à la maison. En totale dématérialisation, qu'on s'occupe des enfants. Oui, des clients.
Des clients.
Des clients.
Et, c'est ce et côté en fait, maternel.
Exactement. Et en fait, c'était, on s'est équipé de PC portable, on s'est équipé de grands écrans, on a tout scanné, tout ce qui est, j'allais dire, l'idée de encore papier, des dossiers qui étaient encore papier, on les a scannés. Et vraiment, en fait, la veille pour le lendemain du Covid, on était déjà chez nous, prêts à être comme si c'était au bureau et avoir cette possibilité-là, quoi.
C'est fou. Ouais, est-ce que tu travailles sur l'intuition, ouais, le ressenti, toi?
Exactement. Et en fait, tu vois, le coaching que j'ai fait en 2019 m'a appris que j'avais en fait une forte intuition et qu'il fallait que je la suive. Se faire confiance, exactement. Et en fait, c'est celle-là qui m'a mise en fait quand j'avais 15 ans, je voulais être expert comptable, que j'avais une vision, que j'avais un focus. Et c'est ça en fait. Et j'ai toujours suivi mon intuition, parce que cette intuition, elle m'a conduite là où je suis et j'espère qu'elle va me conduire là où je veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, en 2020, février, donc du retour, en fait, de Thaïlande, c'est où j'étais en Thaïlande, je fais un escale à Hong Kong. C'était la dernière ville à être fermée. Et l'aéroport, c'était vraiment... Il était... Tu vois, en fait, un parking d'avions. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte, quand je suis arrivée à Paris et qu'il n'y avait aucune sécurité, je me suis dit, oula, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Et puis, pendant un mois, j'ai fait que ça. J'ai fait que préparer mes équipes. Mes équipes me disent, mais non, ça ne va pas se faire. J'ai dit, si, suivez-moi. Faites-moi confiance et on va y aller. Et c'est parti comme ça. Et pendant le Covid, pourquoi j'ai pas eu peur de reprendre ? Parce que c'est à ce moment-là où j'ai découvert aussi les réseaux sociaux. J'étais la première à publier une notice ou une note le vendredi, en fait. C'était le 13 mars de mémoire, mais le vendredi 14, j'avais publié une notice parce que j'avais déjà préparé ça pour mes clients et pour mes collaborateurs sur qu'est-ce qui se passe, comment on peut s'organiser, comment. Et en fait, j'avais fourni chaque vendredi, c'était comme un rendez-vous, une notice sur les aides, sur ceci, sur cela. Et j'ai dit à mes équipes, vous vous occupez en fait des clients. Moi, je m'occupe de tout le backup, aide, Covid, relations, rassurer, et être là pour vous et pour les clients. Et en fait, c'est parti comme ça. Et en juillet, bah oui, aucun mal à être repreneuse, quoi.
Ah bah là, t'étais face au mur, hein.
Oui, c'est tout à fait. Et avec même la possibilité de reporter la reprise. Mais non, mais c'était le 1er juillet 2020, c'était 1er juillet 2020.
Ça me fait rebondir, du coup, j'allais te poser la question, qui était le plus grand défi ? T'as surmonté tes expériences. Je pense que le Covid, c'en est une belle.
Ouais, ouais.
Ça t'a mis dans le bain.
Ah oui, ça m'a mis dans le bain, hein, direct, que ce soit en stratégie communication, parce que pareil, hein, c'est...
Ouais, c'est de l'urgence, là.
C'est de l'urgence, que ce soit interne ou externe. Gérer les collaborateurs à distance aussi. Gérer les clients à distance. C'était vraiment... C'était dans le bain et franchement, c'était un défi, mais c'est une belle expérience. Franchement.
T'as pas eu quand même des moments de doute ou de c'est épuisant, est-ce que ça va être ça tout le temps quand je vais être patron ?
Franchement, non.
T'es optimiste, non. Hein, au moins c'est...
Ah oui, je suis hyper optimiste. Non, j'ai pas eu de moment de doute. Alors si, peut-être un moment de doute, c'est de me dire, c'est la responsabilité que j'ai eue, bah, que j'ai ressentie juste à l'approche en fait, de la signature. C'est de me dire je serai responsable de 5 familles. Tu vois, 5 collaborateurs, 5 familles. Est-ce que je vais avoir l'étoffe pour assurer ça ? C'était, en fait, vraiment, c'était ça. Et aussi, cette responsabilité de conduire, en fait, mes clients à la réussite. Oh, pour moi, c'était juste... à un moment, en fait, c'était stressant. Et comme, en fait, je suis beaucoup dans l'introspection aussi et dans la visualisation, tu sais, la poursuite de ce rêve, et de me dire, mais en fait, pendant toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait, vraiment ? Où est-ce que qu'est-ce que j'étais déjà à 15 ans, quand je suis arrivée en France, et pourquoi je fais ça, en fait ? D'où je viens ? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis ? Parce que, en fait, en gros, j'avais pratiquement la responsabilité du cabinet un bon 3 ans avant de reprendre. Qu'est-ce qui changerait au 1er juillet ? Et en fait, ces questions-là, en fait, je me suis posée et j'ai écrit, en fait, ça. Je l'ai écrit, ces questions, ces réponses, comme, tu vois, pour préparer les podcasts,
oui, l'interview,
ou quoi que ce soit. Et ça m'a servi, en fait, d'un chemin, si tu veux, en disant d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je veux. Et est-ce que je suis sûre d'être dans ce focus-là ? Comment je me vois dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans ? Et quand tu l'écris, tu te rends compte, en fait, certes, ce n'est pas anodin, c'est une super responsabilité, que ce soit pour toi personnellement, parce que j'ai une famille aussi, j'ai été maman de 2 enfants, épouse, femme, dirigeante. Et en fait, toutes ces casquettes-là, tu te dis, waouh, Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça? Et je me dis, mais pourquoi je veux être ça? Parce que c'est un rêve? Parce que je veux oser faire ça? Et c'est parce que je suis conduite par l'amour du métier. J'aime ce que je fais. Parce qu'en fait, j'ai allié les deux, cette casquette de dirigeante, cette casquette de dehors, cette casquette de réseau, d'entreprise, de rencontre des clients, de rencontre de collaborateurs. Je dis, mais non, mais en fait, cette responsabilité, elle est là, mais elle est chouette si on veut qu'elle soit chouette. Certes, c'est dur, il y a des moments durs, il y a des moments de défis, il y a des moments tu reprends, donc moi j'ai dû emprunter, tu te dis, tu mets en péril aussi la famille, c'est un gros emprunt. Je lui dis, mais en fait, t'as qu'un seul moyen pour être bien, c'est de réussir. Et tu fonces. Voilà. Ça paraît simple, mais c'est un travail personnel qu'on doit faire. C'est comme un auto-coaching que je me suis fait, en fait.
Et tous les matins, tu te lèves, t'as le sourire, t'es content d'aller au travail?
Ouais, franchement. J'ai le sourire d'aller au travail, parce qu'en fait aussi, ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai décidé aussi dans la reprise, c'est que je me suis octroyé le droit de choisir mes clients.
C'est dur, ça, au départ.
Ouais, c'est dur. Mais après, quand j'ai repris, j'avais déjà une base. Donc je reprends pas de zéro. Si tu veux, tu vois, je comprends, en fait, quand on reprend de zéro, on peut pas faire la fine bouche. On doit en fait accepter et après en fait affiner et segmenter au fur et à mesure. Mais moi, je pars pas de rien. Je pars déjà avec une base de clientèle qui me connaissent déjà depuis des années et des années, parce que j'étais dans le même cabinet aussi. J'avais cette assurance là aussi, et je me suis dit oui. En fait, j'aimerais en fait accepter et dire oui à un client, de choisir un client. Et en gros, est-ce qu'on match au niveau profil, au niveau feeling, au niveau valeur, au niveau de ce qu'on peut amener en fait l'entreprise. Et moi, ça me fait hyper en fait plaisir de me lever tout le matin, parce que j'ai des clients en fait qui sont trop bien, qui sont choisis. Après, on a des clients aussi qui sont, voilà, c'est comme tous les experts comptables et comme tous les cabinets. Mais bon, c'est une fine partie, et aussi le plaisir aussi de voir aussi les collaborateurs, pas la boule au ventre, qui viennent, ils ont les outils, ils ont l'automatisation, ils ont la digitalisation, ils ont des clients les profils ils matchent super bien. Et surtout, en fait, c'est le système de base, hein. Communication, communication, communication.
Eh bien, déjà, on a vu sur le passé, c'est une belle partie. Ça, sur le présent, j'aimerais que tu me dises maintenant, à quel moment tu t'es dit, ça y est, bah, j'ai réussi professionnellement, je suis fier de moi.
C'est le jour où j'ai découvert les résultats, déjà, du diplôme. Ce jour-là, pour l'anecdote, j'ai imprimé la page où il s'est admis. Je l'ai stabiloté pour être sûr que c'est fait. Parce que comme je l'ai eu du premier coup, du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je suis descendue voir une collaboratrice que j'aimais bien pour lui dire, est-ce que tu lis bien ce que je lis?
T'es sûr?
T'es sûr? J'ai appelé mes parents, du coup. Donc ça, c'était une fierté pour moi. Pour moi, c'était le vrai succès. Le jour de la reprise du cabinet aussi, 1er juillet. C'était quelque chose, hein, ce 1er juillet. La veille, j'étais collaboratrice. Le lendemain, la patronne, quoi. Tu vois, c'est 30 juin, simple collaboratrice. 1er juillet, la patronne. Donc, c'était super chouette. Ça, c'était réussite professionnelle. Et le fait est aussi, la deuxième, c'est le 1er janvier 2022 où j'ai créé le cabinet à Lille. Donc, la reprise, et là, c'était la création, c'était mon bébé, c'est moi. Et donc, du coup, c'était à ce moment-là où aussi j'ai changé mon branding, j'ai changé le nom du cabinet et j'ai décidé, en fait, de me l'approprier, le tout. Donc, ça, c'est vraiment mes dates phares, j'allais dire.
Là, c'est des belles dates, hein.
Ouais.
Organisation quotidienne, comment tu fais pour gérer tout ça entre la mère de famille, l'épouse, la chef d'entreprise? Explique-nous, hein, parce que là,
alors, wow. Bah, je vais t'expliquer pour ce 1er juillet, parce que comme je t'ai dit, ce fameux 1er juillet, il était quelque chose. Alors, pour, comme quoi, en fait, hein, l'univers, des fois, il t'envoie des signaux pour te rappeler de ne pas oublier l'essentiel aussi, que là, tu as réussi au 1er juillet à signer, en fait, la reprise. Mon mari, en fait, ce jour-là, il était très, très malade. En fait, une semaine avant, il était très, très malade. On avait cru que c'était vraiment Covid et compagnie, mais très, très, très sévère. Mais non, c'était pas le Covid. Et ce jour-là, en fait, il avait fait la veille des analyses. Et ce jour-là, le matin, le médecin traitant, il m'appelle, il me dit Khadija, il faut que tu prennes ton mari et que tu ailles aux urgences, mais tout de suite. Donc, 1er juillet 2020, hein, donc j'arrive le matin.
Pour signer.
Je viens avec mon mari. À l'accueil, je le pose, je rencontre Régis Gossard, je signe et je dis maintenant je suis patronne, je suis dirigeante.
Je m'en vais.
Mais, mon premier acte, il va être envers ma famille parce que je dois m'occuper de mon mari qui est malade et je dois le conduire aux urgences. Mais franchement, tout naturellement, et c'est ce jour-là, tu vois, je l'ai écrit parce que je me suis dit en fait, c'est comme si l'univers, il te pose quelque chose en disant... Alors, j'étais ravie, en fait, de reprendre, mais j'étais triste aussi pour mon mari. Mais c'est, en fait, c'est cet effet de dire, là, maintenant, je suis une dirigeante, mon premier acte, c'est ma famille. Tu vois, c'était déjà, en fait, acter quelque chose, de dire, ça va être ton équilibre, en fait. Ça va être de jouer entre le pro, le perso. Et à quel moment, en fait, tu tires la corde de l'un et de l'autre. L'équilibre, il n'existe pas, il faut savoir. Mais il faut aussi se dire, à des moments où je suis hyper pro, donc je peux faire des heures et des heures. Alors après, moi, j'ai fait en fait un engagement envers moi-même. C'est de ne pas travailler samedi, dimanche. De ne pas ramener aussi le boulot à la maison. Parfois, je le fais exceptionnellement.
C'est dur, des fois.
Exactement, c'est dur. Mais parfois, je le fais exceptionnellement. Mais en me disant, en fait, que j'ai aussi des moments off et des moments aussi avec ma famille. Et quand je sais, par exemple, qu'il y a des périodes où je vais être beaucoup plus sollicitée qu'autre, donc je profite, en fait, du autre ou de l'avant pour passer plus de temps avec mes enfants, de passer plus de temps avec mon mari, et pour dire, tu vois, d'alléger en fait mon planning, parce que je sais pertinemment qu'à des périodes, je vais être beaucoup plus sollicitée, je vais être beaucoup plus sur le terrain, en fait. Peut-être au congrès des experts comptables, où on est, pendant 4 jours, parti. Ça peut être aussi dans des séminaires pro. Et en fait, l'idée ici, c'est de se dire, on a des moments pro avec les collaborateurs en tant que dirigeant. Et dirigeant, t'es tout seul aussi, dans ta tête. On a des moments perso avec la famille, mais il faut aussi, il y a un juste milieu. Il faut se dire, alors que ça soit femme ou homme, se dire avec des moments l'entre-soi. Il faut qu'on se retrouve, en fait, à un moment donné, qu'avec soi pour pouvoir en fait avancer et se nourrir. Et ça, en fait, c'est du fait de faire ce chemin-là et de se dire à un moment donné, tu peux dire off, j'arrête ou je boucle ou je finis. Là, c'est vraiment chouette, quoi.
Ta réussite, est-ce qu'elle ne dépend pas aussi un petit peu de ton cercle familial et de cet équilibre-là?
Ah oui, complètement. Je te dis, moi, je suis un profil qui est très famille, alors que ce soit famille pro ou famille perso. Et moi, mon cercle, il doit être, à mes valeurs et avec des valeurs partagées, différents mais complémentaires. Et ce cercle-là, en fait, cet équilibre famille et amis et aussi pro avec mon cabinet, avec mes clients, avec mes partenaires aussi, parce que j'ai des partenaires avocats, notaires, éditeurs, etc., qu'on choisit, si tu veux. Et c'est pareil, en fait, je choisis en termes de feeling, valeur, mission, et en termes aussi, bien évidemment, financiers et professionnels. Et c'est un tout, en fait. En fait, tu construis ton métier là où tu te sens le plus à l'aise et là où tu j'allais dire, t'as pas la boule au ventre, ou t'es pas stressé, ou t'es pas en pression. Il y a des moments comme ça, mais en fait, tu t'attaches à ces valeurs-là et tu t'attaches à ces personnes-là. Tu sais que tu peux appeler quelqu'un pour exprimer en fait ton stress, ton anxiété, etc. Donc, je sais que, par exemple, moi, mon mari, il est entrepreneur, il est chef d'entreprise de 3 boîtes, et je sais très bien que c'est on parle famille comme on peut parler business, et c'est génial, quoi. Et je me suis entourée aussi, je suis dans des réseaux business entrepreneurs, et c'est pareil, en fait, de parler à des dirigeants entre dirigeants, c'est aussi en fait cette possibilité de s'identifier les uns les autres et de partager des problématiques. Et ma réussite en fait dans ça, dans des réseaux d'entrepreneurs, c'est qu'ils me voient en dirigeante et expert comptable, mais dirigeante. C'est un peu paradoxal parce qu'on a en fait cette espèce de dire ah, expert comptable, pas dirigeant. Mais là en fait, non, ma réussite dans ça, c'est que en m'identifier à la fois en dirigeante et à la fois en expert comptable. Et ça, c'est chouette.
Est-ce que tu trouves que c'est plus dur pour une femme d'être dirigeante, de tout gérer, le côté pro, familial, ou tu te poses même pas la question, on est tous pareils?
Alors, je ne me suis jamais posé la question.
Bah, très bien.
En fait, c'est ça le truc, c'est que je me... En fait, c'est... Je crois vraiment pertinemment que la seule limite qu'on peut se poser, c'est soi-même. C'est... Pareil, tu vois, c'est quand je voulais venir en France, pareil, la question se posait à ce moment-là, jeune fille qui vient du Maroc, bah, côté traditionnel aussi, hein, conservateur, toute seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais mis les pieds, mais je l'ai fait quand même parce qu'en fait, c'est la mission ou le rêve, il était beaucoup plus fort que cette limite-là, si tu veux. Pareil, quand je l'entendais, si tu veux, pendant les études d'expertise comptable, bah, que les femmes n'arrivaient pas à ce stade d'expertise comptable, etc. Et en fait, j'avais décidé à ce moment-là de ne pas me marier, j'allais dire, tant que je n'ai pas eu mon diplôme.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et regarde, le jour où
le jour de la soutenance, j'ai rencontré mon mari. Mais
ça, c'est un signe.
Comme quoi, c'est un signe, c'est l'univers, comme tu veux. Mais tu vois, c'est ça en fait aussi. C'est après, moi je pense, je suis vraiment une convaincue que les seules croyances limitantes, c'est celles qu'on se pose. Certes, on se les pose, mais en fait, il faut savoir, j'allais dire, les dénouer. Tu vois ce que je veux dire? Les croyances limitantes, on les a. Et pareil, tu vois, c'est c'est difficile que ce soit une femme. Oui! Oui, ça peut être difficile parce que système patriarcat, parce que il y a la vie de famille, parce que maman, épouse, peut-être la légitimité. On parle de légitimité, mais en fait, si tu veux, quand tu vois, quand tu travailles, quand tu as un métier, quand tu fonces et que tu réalises en quelque sorte cette espèce d'équilibre, parce que moi, j'aime pas parler d'équilibre vie pro vie perso. Pour moi, la seule question que je me posais, est-ce que je suis épanouie dans ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'à la fois dirigeante, à la fois maman, à la fois expert comptable. Et quand la réponse, elle se dit, bah, j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais, bah écoute, oui, il n'y a aucune limite. Être dirigeante, pareil, quand j'annonce que je suis dirigeante et la seule associée, t'es la seule associée, t'es dirigeante, t'es femme en plus. Bah oui, et
alors?
Et donc tu vois, c'est ça le truc, c'est pareil, dans les réseaux, il y a toujours cette espèce de, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis ceci? Et fais-le, tu verras bien. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que t'es épanouie ou pas? Après, franchement, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça soit en fait une femme qui va être une barrière bloquante à arriver là où je voulais arriver.
Après, ça peut être dur aussi. Tu dis que ton mari il est chef d'entreprise, donc deux entrepreneurs. Souvent, sur le couple, si tu te dis, peut-être qu'il y en a un qui doit plus de stabilité pour, au cas où si ça ne marche pas, on peut se poser la question.
Eh bien, on pourrait poser cette question, et on s'est posé cette question avec mon mari. On s'est dit, bah, en fait, on est deux les bureaux. Comment on fait? Et bah, en fait, pareil, pas le choix que de réussir. c'est tout. Et puis aussi, ce qui est bien en fait dans notre système aussi, c'est que nos plannings, ils sont flexibles du coup. Quand moi, par exemple, j'ai des réunions à rallonge, des rendez-vous que j'enchaîne, bah, j'appelle mon mari, est-ce que tu peux prendre le relais pour les enfants? Ok, bah, je me débrouille pour y être. Pareil, lui, c'est pareil, c'est quand des semaines où il est overbooké, où il doit aller dans des conférences ou quoi, écoute, Khadija, est-ce que cette semaine-là, tu peux prendre le relais pour les enfants parce que ceci, cela? Ok, pas de problème. Donc, et en fait, c'est ça, cette flexibilité, elle est géniale. Elle est juste géniale. Et on peut se permettre d'avoir ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand on a décidé ça avec mon mari, ben en fait, alors chacun, il est dans tout ce qui est service à la personne et service au pro, donc pas du tout dans le métier de finance, etc. Moi, je suis expert comptable, et en fait, dans nos entreprises en parallèle, mais en fait, on a fait une croissance limite quasi identique. Que ça soit dans le business, que ça soit dans le management, et on parle énormément, on s'inspire mutuellement parce que lui il est très fonceur dans l'âme, il peut décider et puis il fonce et après il réfléchit. Moi je suis très organisée et je réfléchis d'abord à la vision et après j'y vais. Et sur des moments en fait on échange nos facettes, si tu veux, on s'inspire l'un et l'autre et vraiment c'est super chouette.
Est-ce que tu pourrais me donner ton conseil ou des tips pour la femme ou le jeune homme qui veut faire comme toi?
Si j'ai un conseil, franchement, c'est clarifier en fait son rêve et sa vision dès le départ. Je rentre peut-être dans un parcours qui n'est pas les plus faciles. Pourquoi? C'est se poser la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que c'est la classe sociale? Est-ce que c'est par l'ascenseur social? Est-ce que c'est parce que le métier, il me plaît, ou l'orientation, etc.? Et clarifier ça, parce que ça peut être très, très encourageant dans la suite. Tu te rappelles, je te dis, à des moments, t'as des moments de down, t'as des moments de bas. Tu t'accroches juste simplement à pourquoi tu as fait ça, en fait, en gros. Et clarifier sa vision. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Oui, d'accord, tu vas être expert comptable, mais pourquoi faire? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Est-ce que tu veux être juste simplement expert comptable salarié ou patron ou dirigeant? Je rachète, je crée. Et c'est des questions qu'il faut se poser dès le départ. Parce que l'énergie et le temps que tu vas allouer à tout le parcours n'est pas pareil. Voilà. Donc si je peux avoir ce conseil-là, c'est clarifier sa vision.
Ben merci pour tout ce que tu nous partages. Merci. Maintenant, je voudrais savoir sur le futur. Tes projets à un an, là, du coup, même si on a un peu spoilé.
Oui, on a un peu spoilé, mais sur un an, comme je te dis, moi, j'adore mes deux pays. Tu vois, c'est mon pays de naissance et mon pays d'adoption. Je kiffe les deux. J'ai appris à avoir en fait cette double culture-là. Et mon moment de balance entre les deux arrive cette année-là. Donc 21 ans et 21 ans. Et l'idée là cette année, c'est de créer mon cabinet au Maroc. Et en fait, j'ai toujours eu cette idée là. D'ailleurs, mon sujet de mémoire, c'était sur l'accompagnement, le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des investisseurs français et marocains au Maroc. Donc c'était déjà en fait le cas avant. Et en fait, j'ai envie de le faire. Tu vois, ce rêve là. Donc cette année à Casablanca, c'est ma ville natale, pourquoi pas, donc oui, j'y vais.
Et dans 10 ans, tu seras où?
Et bah pareil, donc alors en France...
C'est programmé ou pas déjà?
Ah si, c'est programmé, la vision elle est claire. Non, en fait, si tu veux, tu clarifies ta vision quand t'es étudiant, tu clarifies aussi ta vision quand t'es dirigeant et entrepreneur, ça c'est sûr. Tu peux pas en fait partir comme ça, les yeux fermés. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Après, il y en a qui le font très bien et c'est OK. Moi, j'arrive pas. Donc oui, dans 10 ans, alors pour te dire, en France, avec mes deux bureaux, donc à Saint-Amand-les-Eaux et à Lille. Donc, pareil, rayonnement national, rayonnement régional et aussi national. Pourquoi pas un troisième cabinet à Paris pour ce côté, asseoir ce côté national. Pourquoi pas? J'ai dit ça, pourquoi pas? Et au Maroc, je me vois très bien à Casablanca. Et j'ai une autre ville aussi de cœur qui est Marrakech. Et là, en fait, c'est vraiment beaucoup plus dans la gestion de patrimoine, dans l'expertise comptable. Et aussi, ce que j'ai envie en fait, de faire, c'est créer en fait, ce pont entre le Maroc et la France. Pourquoi pas m'impliquer alors des experts comptables marocains? Pourquoi pas créer... là-bas, il n'y a pas un club jeune expert comptable qui sont dans cette dynamique de renouveau, de modernité, etc. Donc voilà, ça c'est ma vision en quelque sorte là-bas, de m'impliquer aussi dans l'économie sur place, ici aussi, parce que ça reste toujours des relations France-Maroc qui sont super établies depuis des années, depuis des décennies, et ça le restera toujours les dix prochaines années. Donc oui, je veux être impliquée à 100% pour cette relation-là.
Sortir un petit peu de, comment dire, le rôle d'expert comptable et plutôt chef d'entreprise à diriger, parce que tu ne pourras pas être partout non plus.
Non, je ne peux pas être partout, ça c'est sûr et certain. Ma nature, c'est de m'impliquer dans tout ce que je fais. Et donc, je resterai toujours expert comptable, je superviserai toujours mes clients, etc. Pareil, tu vois, la supervision, oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être des directeurs de bureau, que ce soit au Maroc et en France, mais je resterai toujours impliquée. Quoi qu'il en coûte, j'adore mes clients, comme je te dis, c'est ma famille, quoi. Donc, ils me verront toujours, que ce soit au Maroc et en France. Et certes, je ne peux pas être partout, mais si je peux être partagée aussi, ça, c'est avec grand plaisir.
Bah, c'est un beau projet. Yes. Pour finir l'interview, j'aimerais te proposer un jeu qui s'appelle Confession intime. Le but, c'est que nos auditeurs, en fait, ils apprennent à mieux te connaître. Il faut juste que tu me répondes par plus ou moins.
D'accord.
T'es parti ?
Ouais, je fais partie.
Tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine ?
Moins.
As-tu plus ou moins de 10 amis proches ?
Oui, et plus.
Au niveau du sommeil, tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit?
Moins.
Au niveau des congés annuels, tu prends plus ou moins de 5 semaines?
Ah, plus.
Ah oui?
Ouais. Depuis 2020, je prends généralement... les congés, en fait, la fermeture des cabinets, c'est le mois d'août. Et je prends... début juillet, je pars au Maroc. Donc, 2 mois, donc du coup. Donc, juillet, c'est ma période de visio, rendez-vous à distance, que ce soit avec mes équipes et avec mes clients. Je reste en télétravail. Bizarrement, je suis beaucoup plus productif là-bas. À savoir, je crois que c'est le soleil qui fait ça. Mais je prends ce temps-là, ouais.
Et au niveau de la retraite, t'envisages de la prendre avant ou après 65 ans?
Franchement, je me pose absolument pas la question de la retraite. Pourquoi ? Parce que comment ? Je me vois pas arrêter et je me vois pas continuer dans le même rythme, en tout cas. À 65 ans, pour moi, c'est trop jeune pour arrêter. Et peut-être trop vieux. Alors, après, moi, la retraite, j'ai un autre... et c'est ce que je partage aussi à mes clients. Moi, il ne faut pas que j'attende la retraite pour profiter. Tu vois, moi, je suis une partisane de dire je profite maintenant. Tu vois, je prends les 2 mois. Mes clients, ils savent très bien qu'en juillet, je suis à distance et pas sur place, en présentiel. Et c'est OK. Mes collaborateurs aussi, c'est pareil. Et donc, en fait, pour moi, c'est profiter maintenant. Et pas attendre « Ah, ben, je ferai ça quand je serai à la retraite » ou « J'investirai quand je serai à la retraite »,« Je ferai le tour du monde quand je serai à la retraite ». Non, pour moi, ça n'a jamais été mon délire, j'allais dire. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, profiter de l'instant présent.
C'est important, je trouve, c'est un beau mot de la fin.
Bah oui.
De dire, voilà, il faut profiter.
Exactement.
Et en même temps, aussi profiter professionnellement, de s'éclater, quoi.
Tout à fait, exactement. Kiffé.
Eh ben, je te remercie.
Je t'en prie.
On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast « Pourquoi je suis expert comptable ?»